tous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'infos avec vous. 10h, 11h, les médias, Rémi Pernelet, Gilles Gansman sont là.
Bonjour Valérie,
bonjour Valérie, bonjour Gilles.
On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de la nouvelle grille de France Télévisions. On va parler des talk-shows d'actualité, des talk-shows avec des invités. Est-ce que vous en avez marre de ces émissions? Est-ce que vous continuez à les regarder? Thierry Ardisson s'arrête. Laurent Ruquier a des audiences qui sont en baisse. C'est peut-être aussi la fin des chroniqueurs qui sont remplacés par des éditorialistes. On va en parler avec le journaliste média Renaud Revel. On va également parler du classement des femmes d'influence en France, sport, business, culture, réseaux sociaux. Qui sont les femmes, les personnalités qui génèrent des profits et des ventes records? C'est le magazine Forbes qui en fait le palmarès aujourd'hui. On en parlera avec le directeur de la rédaction qui sera avec nous. Et puis entre 11h et midi, on va revenir sur les polémiques autour du sujet du bac, des sujets trop compliqués, mais en particulier on va s'interroger sur ce sujet qui est tombé en géographie sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient, un pays de conflit, une zone de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les élèves étaient suffisamment armés pour traiter ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qu'ils ont abordé pendant l'année? On sait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui hésitent à parler du Proche-Orient, sujet ô combien délicat. Et puis pour les élèves, ça pose aussi question de savoir qui va corriger ma copie. Bref, on en reparlera à 11h. On va parler du cannabis. Ça revient, des députés qui insistent sur le fait qu'il faut légaliser le cannabis. Et puis on parlera, il y aura quelques mots également de Donald Trump, seul contre tous. Et si finalement, il avait réussi son pari. 0826 300 300, on commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, les audiences, on va commencer avec le carton.
Oui, le carton hier, c'est pour TF1, 3 817 000 téléspectateurs et 17,4% de part de marché pour les deux derniers épisodes de la saison 1 de Manifest, la série américaine. C'est le même score que la semaine dernière. 1 900 000 téléspectateurs de moins que lors du lancement de la série, mais enfin, c'est quand même une bonne audience pour cette première saison qui a bien fonctionné pour TF1. TF1 était leader hier devant France 3, 3 177 000 téléspectateurs pour la série Tandem.
Donc c'est vous qui avez gagné, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Pour les pronostics, c'est effectivement TF1 France 3, c'était mon pronostic.
Et nous on avait dit TF1 France 2.
France 2 n'arrive qu'en quatrième position. En troisième c'est M6 avec Cauchemar en cuisine, 2 396 000 téléspectateurs, un bon score. Et puis juste après, Cache Investigation sur les fruits et légumes, 2 396 000 téléspectateurs. C'est un assez bon score, 300 000 de plus que le dernier Cash Investigation.
Mais c'est
300 000 de moins que le meilleur score en septembre sur le plastique. Ouais. Cauchemar en cuisine, j'ai donné le score de Cash Investigation. Cauchemar en cuisine, c'est 2 797 000.
Oui, mais le cauchemar en cuisine, il était bel et bien sur France 2 quand même, avec les tomates. Hein.
Vous avez absolument raison.
C'est un vrai cauchemar.
Et d'ailleurs, ce score est un bon score parce que les gens sont restés jusqu'au bout. La courbe est très rectiligne. Oui. Donc les gens, je pense, qui ont regardé sont inquiets sur les tomates qu'ils vont manger aujourd'hui.
Okay. Et puis le reste de la nourriture.
Cédric posait la question, vous avez la réponse. Gilles nous dit, moi j'ai regardé hier soir sur Canal+, à la demande, la deuxième saison de Killing Eve, vivement la saison 3. Oui, je suis d'accord. Je trouvais un petit peu moins bien, moi, cette deuxième saison de Killing Eve, mais c'était pas mal. Le Gadin, c'est pour qui?
Le Gadin, c'est pour Arte, hier, un documentaire également sur l'alimentation. Le vrai coût de la viande pas chère, pauvre cochon, riche affaire, donc sur la viande de porc. Seulement 373 000 téléspectateurs et 1,7% de part de marché. C'est 200 000 de moins que la semaine dernière. C'était un documentaire sur les USA. Donc Arte, hier, était la 14e chaîne généraliste. Bon, c'est pas un bon score. Les gens sont tous tournés sur Cash Investigation.
La thématique n'est pas là.
Voilà, exactement.
Ouais, dites-nous si vous l'avez regardé. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé sur le Facebook Live au 0826 300 300. Et puis la surprise, c'est pour qui?
La surprise, c'est pour TMC. 1 482 000 téléspectateurs. 7% de part de marché. Pour le match de la Coupe du Monde de football féminin entre le Brésil et l'Italie. vous voyez, même quand il n'y a pas la France, ça fonctionne bien. 900 000 de plus que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était 90 minutes ouais. enquête, donc TMC hier était la cinquième chaîne généraliste.
Bon pari de groupe TF1, en tout cas.
Bah, oui, sur ouais, ouais. l'achat des droits ouais, en ouais. gratuit, oui, tout à fait. Ah, Canal aussi, d'ailleurs, parce que Canal a des bonnes audiences
ouais,
également.
Des bonnes ouais. audiences, ouais.
Je signale une grande déception, c'est C8 hier, ouais. seulement 630 000 téléspectateurs pour les sous-doués en vacances. Ah. Ça fait 400 000 de moins que les sous-doués il y a 15 jours.
Ah, zut, donc, je sais que vous êtes déçus. J'aurais parié dessus.
Oui, vous êtes un peu expert des sous-doués, Gilles.
Absolument.
Donc,
absolument.
Vrai que c'est légèrement moins bon. Et puis, bon, du côté des talk-shows d'Access, petit score hier, quotidien en tête, 1 248 000 téléspectateurs pour Yann Barthès, qui recevait Martin Veil et l'excellent acteur belge Mathias Schoenaerts. Devant Touche pas à mon poste, 1 152 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna, qui recevait Olivier Mine oui. et Magloire. Et puis, troisième position, C'est à vous sur France 5. 998 000 téléspectateurs, juste en dessous du million. Anne-Elisabeth Lemoine recevait notamment Élise Lucet, qui parlait de Cache Investigation, et puis Nathalie Yanetta, sur notamment l'inculpation de... Enfin, la mise en examen, pardon.
Non,
non, non, non, pas la mise en examen, la garde à vue.
La garde à vue de Michel Platini. Oh là là, malheureux. Oh là là.
Olivier Gilling, qu'on recevra vendredi pour nous parler du Fort Boyard, qui démarre samedi.
Très bien. On a Marthe en ligne avec nous. Bonjour, Marthe.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez regardé Cache Investigation ?
Oui, c'est ça. J'ai regardé Cache Investigation et effectivement, le constat est inquiétant, quoi. Donc,
qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir vu ça, à propos des tomates ? Parce que moi, je me dis, qu'est-ce que je vais acheter comme tomate, quoi ?
En fait, c'est surtout que je me rends compte que on est dans un monde où la désinformation est de plus en est devenue normale, banale, en fait. On ne nous informe pas sur les choses, on se rend compte des choses. Sincèrement, personnellement, ça m'a pas trop surprise. Parce que je me suis dit, la grande distribution, donc ces grands groupes, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Donc je me rends compte effectivement que la tomate, maintenant je vais manger, je vais la regarder différemment. Quoi,
à la maison. Mais là on informe justement, si vous dites la dernière fois, mais là pour une fois justement ce magazine c'est sur une chaîne publique et il y a de l'information.
Oui, mais attention, quand on a regardé Cache Investigation, on se rend compte que c'est une étude qui a été faite, la seule étude qui a été faite, c'était aux États-Unis, mais aucun scientifique ou ces personnes qui sont dans les laboratoires d'agriculture n'a mis en évidence cette problématique. Donc, en fait, chance qu'effectivement, il y a eu Cache Investigation. C'est pour ça que je dis, effectivement, la désinformation est banale. Parce que si eux, ils n'avaient effectivement pas ils n'avaient pas fait le boulot,
on
continuerait toujours à manger notre tomate qu'on trouve fraîche. On va acheter la tomate quand elle est pourrie, on se fâche. Mais en fait, finalement, mieux vaut qu'on ait une tomate un peu plus vivante qu'autre chose.
Alors, Framboise nous dit... Merci beaucoup, merci Marthe. Framboise nous dit, j'ai regardé là deux reportages fort intéressants, je mange les tomates de mon jardin. Bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Cédric, toujours là, qui nous dit, une rare qui prend pour argent comptant ce que dit Élise Lucet. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui contestent, en particulier sur le glyphosate, les enquêtes d'Élise Lucet, qui a eu parfois des
Même
choses...
Même là, il y a eu des critiques.
Il y a eu des critiques, effectivement. Après, il y a des, si vous regardez sur la durée le reportage... Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, les nutriments, c'est relativement incontestable l'analyse des nutriments. Mais bon, après,
oui,
chacun se fait son idée.
Tout le passage sur le pain jaquet aussi, sur le fait qu'eux soient autorisés à planter des graines parce qu'ils font partie du CNIS et que les autres n'ont pas le droit de planter ce qu'ils veulent.
On a Marion en ligne avec nous. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous avez regardé la 3, c'est ça ? Vous avez regardé Tandem ?
Exactement. Voilà, j'avais, je pense, besoin d'un petit, après la journée de travail, quelque chose de léger, de doux. Ce duo depuis un petit moment. J'avoue que c'est distrayant et pour une petite soirée tranquille, j'apprécie.
Et vous appréciez, vous l'avez suivi depuis le départ ?
Oui, j'ai tout de suite accroché. J'ai bien aimé cette histoire de couple et à la fois de hiérarchie. Et je trouve ça assez amusant.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie Rémillon serait peut-être pas là sans lui. Un petit hommage à Zapimax. Vous oui. savez, on a parlé ensemble des pionniers du journal télévisé. Bah, lui, c'était un des pionniers de la radio. Imaginez.
C'est pas le journal télévisé. Hein.
Non, j'ai dit, on a parlé. Ah oui, d'accord.
Oui, d'une autre époque, vous voulez dire. Voilà.
Oui, j'ai dit, on a parlé des pionniers du journal télévisé. Virgule. D'accord. Lui aussi, il était un pionnier pour la radio, puisque dès 1947, revirgule, il fait jouer la France entière avec son fameux jeu Quitte au double. Nous sommes en 1947 et nous sommes sur Radio Luxembourg.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons maintenant jouer un autre Quitte ou double. Ce jeu, vous le savez, apporte la fortune aux gens d'esprit et rapidement, je vous en rappelle le règlement. C'est un jeu à base de questions. Première question bien répondue, 250 francs. Nous doublons à chaque bonne réponse, 500, 1000, 2000, 4000, etc., etc. Le concurrent s'arrête quand...
Alors, si je vous en parle, c'est que Zapimax nous a quittés à quelques jours de son 98e anniversaire. Grand admirateur des Marx Brothers, il débute également comme chanteur dans le music hall et c'est le premier à faire des chansons à la radio.
C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble et dans la vie, on va tout droit, nous, de mon scooter et moi.
Un grand nom de la radio. Alors beaucoup pensaient qu'il était déjà mort.
Moi aussi, je pensais que Zapimax voilà. était mort.
Mais il allait plutôt bien d'ailleurs de ce qu'on a pu. Il était plutôt en forme.
Et des jolis tweets hommages entre autres de Jean-Pierre Foucault et des gens de radio. Passons maintenant à la télévision. Hier au 13h de Jean-Pierre Pernaut, le journaliste Michel Izard est revenu sur le match des Bleus BLEUES face au Nigeria. Il a voulu prendre. Il a voulu prendre sa plus belle plume pour le commentaire. Il a essayé d'être poétique. Vous allez voir, ça n'a pas marché.
Quelques belles images de ces premiers matchs, de cette première semaine, choisies par Michel Izard. C'est l'œil de Michel, regardez.
Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Bon alors, inutile de vous dire faire comme les garçons, qu'on aimerait être le ballon, qu'elle tricote, tollé sur le web, les féministes vont debout. Je pense que la prochaine fois, dans son commentaire, Michel Izard ira droit au but.
Oui, mais c'est... Ah, bravo. Mais c'est vrai que c'est un clin d'œil à la fin du journal de Jean-Pierre Pernaut, qui est l'œil de Michel Izard. Donc c'est un commentaire, je ne veux pas le défendre.
Oui, ça me surprend de vous.
J'aime bien Michel Izard. On l'avait eu sur Notre-Dame. Oui, donc, c'est vrai que c'est pas très habile.
Non, mais je pense que c'est un peu maladroit.
C'est très maladroit.
Je pense que ça part d'un bon sentiment de bien écrire.
On n'a plus le droit de dire ça.
Toujours le match France-Nigeria qui hier a été beaucoup critiqué dans la presse avec de nombreux articles assez violents. Vous savez que les Français adorent brûler ce qu'ils ont aimé. Hier, dans C'est à vous sur France 5, Denis Brognard est donc venu défendre notre équipe de France.
Une victoire honteuse, une première période terrifiante de faiblesse et d'ennui, une bouillie. Je passe au Parisien Éric Brunat, une victoire tirée par les cheveux, c'est le titre. Une image plus que poussive, une équipe apathique, manquant de vitesse, de justesse, de percussion, d'âme, une rare indigence.
C'est marrant parce que ce qui est important aussi de voir, c'est que je pense que sur un match identique de la part des garçons, il n'y aurait absolument pas eu ce genre de propos.
Ah bon ?
Mais non.
Oh, monsieur.
Non, parce qu'on a beaucoup... À un moment, il y a eu aussi...
Souviens-toi, France-Danemark, franchement, ils sont
très défenseurs. Allez au bout de votre démonstration.
C'est-à-dire qu'il y a aussi il y avait eu la jurisprudence Aimé Jacquet, à un moment où, effectivement, on a beaucoup critiqué l'équipe de France avant qu'elle ne gagne cette Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le match, il n'était pas bon. Est-ce qu'on doit aller jusque-là ? Jamais une équipe féminine n'avait remporté ces trois matchs de poule. Voilà, c'est pas brillant.
Je ne suis pas du tout d'accord avec Denis Brognard, parce que c'est le propre de la presse sportive de démolir une équipe le lendemain, juste après l'avoir encensé. C'est vraiment tout le temps comme ça. Ouais. Ça arrivait largement pour les équipes masculines.
Je ne suis pas d'accord non plus.
Anne-Elisabeth qui viendra demain d'ailleurs pour fêter les 10 ans de C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Pour finir, dans Quotidien hier, les équipes de Yann Martès ont remarqué ce qu'on appelle, vous savez, des éléments de langage en politique. Donc c'est des éléments qui sont donnés à tout un groupe. Là, je pense qu'il y a un communicant chez La République République En Marche qui a dû se dire bon, on va parler de vos enfants.
Ça fait plus proche du peuple.
Plus humain, ça vous, voilà, ça vous permettra de parler et ça parlera au peuple. Et vous allez voir, c'est assez édifiant.
Si tu veux de nouvelles images, tu sors ton bébé.
On remet les compteurs à zéro.
On remet les compteurs à zéro, puis je vais vous dire, j'ai été papa une troisième fois, ça remet vachement les compteurs à zéro. Pour attaquer Hidalgo, tu sors ton bébé.
Je suis jeune papa, j'ai une poussette, quand vous avez une trottinette au milieu du trottoir, on trébuche sur les trottinettes.
Pour t'en sortir sur le foot, tu sors ton bébé.
Est-ce que vous suivez, Benjamin Griveaux, la Coupe du Monde féminine de football?
J'ai regardé des matchs, j'ai regardé une partie du match d'ouverture, mais à nouveau, je le dis, je suis jeune papa et la petite dernière a fait des siennes, donc j'ai pas vu la totalité.
Pour prouver que tu es républicain, tu sors ton bébé.
La République, elle m'a beaucoup donné. C'est l'école, et c'est mes enseignants. Et voilà, quand je vois mes gamins qui vont à la fête de l'école et que je vois leurs enseignants, je leur tombe dans les bras parce que voilà, ils savent lire à la fin du CP. Je trouve ça formidable, etc.
Que nous ajoutons aux autres En Marche qui utilisent leur couteau suisse?
Pardon. Et moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Vous croyez que je me lève tous les matins en me disant mais comment est-ce que je vais polluer le plus la planète?
Moi, je comprends ce que vivent aujourd'hui les urgentistes. J'ai des enfants, ça m'est arrivé aussi de devoir débarquer dans des urgences.
La crèche? Moi, j'ai des enfants, vous savez, qui ont 6 ans et 4 ans, et 4 ans, ils sont 3.
Je suis jeune papa, j'ai été papa une troisième fois, la petite dernière.
Ça s'arrête jamais. Hein,
non, ça s'arrête jamais. Alors, c'est vrai que bon, sans les images, il y avait Brune Poirson, il y avait Sibeth Ndiaye, il y avait plusieurs. Effectivement, tous sortent leurs enfants. La séquence était assez...
maligne et bien repérée de la
bien
part
repérée
de
la part de Quotidien, qui fait du super boulot, vraiment.
Ouais.
On ne s'en lasse pas,
mais
on continuerait.
Oui, j'avais plein d'autres choses.
Allez,
dans un
instant, on sera avec Renaud Revel, journaliste média, pour parler des émissions de débat et puis de son interview de Laurent Ruquier dans le Journal du Dimanche, qui a fait beaucoup de bruit. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Renaud Revel, journaliste média au JDD. Également, Renaud Revel, on peut vous retrouver sur votre blog. Blog immédiat. Bonjour Renaud Revel.
Bonjour.
Vous avez réalisé une interview de Laurent Ruquier, grande interview qui a été largement commentée dimanche dernier. Laurent Ruquier qui réagissait en fin de saison à la baisse de ses audiences. Et c'est vrai que ce matin, nous, on voulait s'interroger sur ces talk-shows, avec des invités, avec des chroniqueurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive au bout de quelque chose ?
Au bout, j'en sais rien au bout, mais Ruquier pose en tout cas la bonne question. Le rôle des réseaux sociaux et Twitter en particulier,
ouais,
dans des émissions effectivement qui sont de plus en plus dures à tenir et réaliser, parce que, et Ruquier le disait...
C'est la dictature, je rappelle ses propos, on vit sous la dictature de Twitter et de Marlène Schiappa.
Et Marlène Schiappa, et c'est vrai qu'il ne se passe pas une semaine sans que Twitter et les réseaux sociaux s'en mêlent. Il est compliqué pour un chroniqueur aujourd'hui d'exister sans avoir effectivement cette chape de plomb qui fait que chaque fin d'émission, vous avez effectivement toute une série de gens qui tiennent des propos à la fois extrêmement durs, violents, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que souvent les pouvoirs publics s'en mêlent, Marlène Schiappa en particulier, et que le CSA en vient même à prendre des décisions contre à la fois ces émissions et l'ordinateur. Donc Ruquier posait une vraie question: est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire ce que faisait Pollack il y a 30 ans? Ça devient extrêmement compliqué. Oui.
Mais est-ce que les réseaux sociaux ont le droit aussi de critiquer et donner leur avis, même si c'est des avis qui sont partisans ou négatifs?
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais dès lors que ces avis finissent par peser à la fois sur les directions de chaîne, sur le CSA et sur un membre du gouvernement qui intervient tout bout de champ, c'est là où ça devient un problème. Si les réseaux sociaux qui ont une certaine liberté ont s'en donné qu'à cela, sauf que ces tweets font des ravages sur le plan politique et sur le plan des chaînes. On l'a bien vu, rappelez-vous, avec l'affaire Hanouna sur C8, il a fallu quand même que les CSA s'en mêlent, que des sanctions soient prises, que des amendes soient prononcées. C'est que à un moment donné, la cède, et les réseaux sociaux ont une influence aujourd'hui prépondérante sur ce marché. Et Ruquier le dit très justement. Lui estime aujourd'hui que l'émission qu'il faisait il y a encore 10 ans avec Zemmour et Nolo à l'époque, Twitter n'existait pas. Ils avaient une entière liberté. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué encore une fois.
Oui, Rémi.
Mais alors, vous lui posez d'ailleurs la question, hein, vous lui dites, avec un peu moins de 1 million de téléspectateurs en moyenne, le bilan de On n'est pas couché est mitigé. Quand même, vous lui posez la question des audiences. Il botte en touche, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même une véritable érosion des audiences, y compris pour ce magazine de Laurent Ruquier ?
Je ne sais pas, parce que lui, il répond aussi assez intelligemment, parce que moi, j'avais posé la question, mais il estime qu'une émission qui est quand même qui se termine à 1h30 du matin, ouais, et qui rassemble entre 800 000 et 1 million de personnes, avec 15 à 20% de part de marché, c'est considérable. C'est considérable à ces heures-là. Oui. Donc, une érosion, ou sans doute...
Bah
sans
oui,
doute,
Renaud, parce que quand même, malgré tout, moi, j'ai un peu recherché. Là, en 2017, il oui, y avait, je vois un titre de TV Magazine, On n'est pas couché, audience en baisse, boycott des stars, le concept s'essouffle-t-il. En 2008, il y avait déjà des papiers dans Paris Match sur la baisse. Donc, en fait, ce qu'on constate quand on regarde de près, c'est qu'il y a une baisse effective et régulière depuis une dizaine d'années de On n'est pas couché. Alors, c'est malgré tout un essoufflement peut-être de la
formule. Vous avez raison. Est-ce que ça ne tient pas tout simplement au casting lui-même? Parce qu'il en convient un peu, il en convient demi-mot. C'est vrai que Zemmour et Nolo, quand même, ont fait le succès de ce programme. Et depuis, on n'a jamais trouvé véritablement leur remplaçant. Et la saison écoulée, Charles Consigny et Xilango n'ont pas été à la hauteur, évidemment.
Oui, et puis aussi, ils avaient des invités qui venaient moins parce que ils avaient peur de se faire exploser. C'est-à-dire, au bout de 3-4 émissions, 3-4 saisons, vous voyez que vous êtes explosé, vous avez des invités qui refusent de venir.
Oui, tout à fait. C'est une vraie violence dans cette émission. Il y a quand même les très clivantes. Hein. Ça, on le sait depuis longtemps. Et ça, c'est là où le seul petit reproche que je fais à Ruquier, c'est vrai que les réseaux sociaux ont largement perturbé ce marché. Néanmoins, l'émission qu'il anime est une émission compliquée, quoi. Moi, je suis allé une seule fois pour un bouquin il y a des années. Je ne le fais pas deux fois. Ouais. Et vous sortez de là totalement étrié. Donc, très compliqué. Très compliqué.
On se retrouve dans un instant avec vous, Renaud Revel, journaliste média, pour parler de ces talk shows. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, on vous attend. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. On est avec Renaud Revel, journaliste média au JDD, également votre blog immédiat qu'on peut retrouver. Et donc, on parlait des talk shows avec vous, la fin de celui de Thierry Ardisson pour des raisons d'économie, mais avec des audiences aussi en baisse, et de celui de Laurent Ruquier. Rémi évoquait également ces audiences en baisse. Rémi ?
Oui, c'était vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, ces formats-là de talk show qui pourtant ont un côté à la fois prestigieux et sont des rendez-vous importants pour les chaînes, est-ce qu'ils sont pas en bout de course, où ils doivent se trouver une nouvelle inspiration? Thierry Ardisson, que Thierry Ardisson, il s'arrête, mais en même temps, il faisait 1 million parfois de téléspectateurs il y a 2 ans, encore l'année dernière parfois, cette année jamais. Et comme je le disais, je pense que quand même, celui de On n'est pas couché a également baissé. Donc, est-ce que vous pensez que ces formats-là sont un peu... doivent se ressourcer?
Je suis un peu d'accord avec vous. Ce matin, 5 sites, et puis il y a une surabondance d'émissions comme celle-là. Il y en a partout sur les chaînes d'info aussi. C'est quand même le royaume du café du commerce, la télé aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont besoin effectivement de se renouveler. Mais alors comment? J'en sais absolument rien. Moi, ce qui me nerve des fois quand je les regarde, c'est le manque de fond, l'absence de fond, quoi. Ouais. C'est tout pour le buzz, quoi. C'est vraiment.
Et c'est ça. La question que je voulais vous poser par rapport à ce que vous disiez au début. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal de dire. Les réseaux sociaux, il y a une dictature des réseaux sociaux, et en même temps, on cherche aussi à faire le buzz. Ces émissions-là cherchent à faire le buzz, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Et absolument, je crois que de la part du public, il y a une profonde lassitude. Le renouvel genre, je crois que Rémi a parfaitement raison. Encore faut-il trouver la bonne mayonnaise, les bons intervenants aussi. Hein. On voit toujours à peu près les mêmes sur tous les plateaux, et c'est à qui criera le plus fort, t'as le plus fort. Donc effectivement, je pense qu'on a une fin de cycle, et ça suppose de la part des producteurs et des chaînes de télévision d'inventer pas forcément un nouveau genre, mais moi, ça paraît être très vieux con de dire ça, mais moi, je me souviens de Michel Pollack, droit de réponse, il y a quand même plus de 30 ans, ça avait une autre gueule, quelque part. Il y avait quand même des vrais débats, même si c'était un peu éruptif, un peu compliqué, un peu débridé, un peu explosif, mais quelle fraîcheur, c'était formidable, quoi.
Vous croyez pas que c'était Café du Commerce aussi, à l'époque, quand on en regarde, c'était nouveau, c'était différent, c'était une parole un peu libre, mais... Est-ce qu'il y avait vraiment plus de fond, dans les...
Je vous pose la question. Peut-être des journalistes intellectuels, des gens c'était très différent. Et aujourd'hui, vraiment, c'est tout. Non,
Renaud, peut-être parce que le public a aussi changé. C'est-à-dire que peut-être on est moins intellectuel qu'à l'époque.
Peut-être, peut-être. Mais il y avait en tout cas un vent de liberté qu'on n'a pas aujourd'hui. Et j'en reviens au propos initial. Encore une fois, les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Et Ruquier disait dans cette interview que Charles Consigny et Christine Angot n'ont eu de cesse la saison dernière de s'autocensurer, de mettre le pied sur le frein parce que craignant de se faire allumer le lendemain matin et d'avoir une chiapa ou un CSA sur le dos. Ouais. D'ailleurs, une anecdote, Ruquier, à la fin de l'entretien, il me dit qu'il a eu le lendemain un SMS vengeur de Roland Chiappa et leurs relations sont aujourd'hui très très compliquées.
Le lendemain de l'interview, c'est ça?
Le lendemain de l'interview, elle a surréagi tout de suite, elle n'a pas accepté les critiques qu'on porte sur elle.
Ouais.
Alors que moi, de mémoire, je n'ai pas vu un membre du gouvernement, d'un gouvernement, intervenir comme ça à tout bout de champ sur une émission de télévision. Ouais. C'est pas acceptable, ça, sur le fond, en tout cas.
Est-ce que vous pensez que sur le plan de la programmation, cette année, on a vu arriver Balance ton poste sur C8, qui est quand même a une volonté de se revendiquer un peu de Polak, c'est ça? Est-ce que vous pensez que ce type d'émission, il paraît qu'il y aurait un projet peut-être sur une autre chaîne dans ce même genre de format, est-ce que vous pensez que c'est ça qui pourrait venir un peu remplacer ces talk-show débats en bout de course?
Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si c'est du Hanouna, ça va être très compliqué parce qu'il est quand même dans un registre quand même très poujadiste, quand même très populiste, très quand même. Ça manque là aussi. Encore une fois, j'ai l'impression le peu que j'en ai vu jusqu'ici. Moi, Balance ton poste, c'est pas un truc qui m'a vraiment émerveillé. Hein. Là aussi, ça manque de fond. C'est agréable à regarder parce que c'est un grand cirque. Hein.
Oui, et mais c'est
un... extrêmement doué pour ça. Mais est-ce que ça va J'en sais strictement rien. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais, très honnêtement, qu'il y a un public pour ça. Et à l'évidence.
Oui,
à
l'évidence. Puis a été annoncé qu'il y avait une demi. Il y a désormais de débats d'infos qui va être de 20h30 à 21h15 avec Karim Zeribi face à Eric Nolo tous les jours. Donc là aussi, ça va prendre une tranche de face à face d'actu sur C8.
Et en même temps, je vous coupe parallèlement, en même temps, c'est une redite de ce que fait Paris Première avec Nolo et Zemmour, ce qu'a fait un peu Ardisson aussi. On n'invente rien, là, et on reprend les mêmes. Quoi.
Ouais.
Parce que voilà, c'est un peu dommage. Quoi. Ouais. Nolo, on le voit partout. Hein.
Ouais, ouais.
Partout,
c'est étonnant partout, d'ailleurs, partout. Non, que la chaîne. Que Paris Première accepte qu'il aille sur une autre chaîne, non?
Enfin, c'est... Vous avez raison, c'est une bonne question.
C'est une chaîne payante,
mais
Paris
Première. Jamais vu. Enfin, je pense que globalement, quand on a un animateur, on ne le laisse pas aller sur une chaîne concurrente.
Tout à fait, d'autant que le groupe M6 en général n'est pas très partageur. Oui, c'était curieux.
C'est une vraie question. Merci beaucoup, Renaud Revel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et on est en ligne avec un autre journaliste média, Mickaël Zoltobroda. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes journaliste au Parisien, journaliste média au Parisien, et vous étiez hier à la conférence de presse de France Télévisions qui a annoncé son...
Vous voulez dire au grand show France Télévisions.
Au grand show, au keynote, comme on dit, c'est
voilà,
ça,
c'est ça.
D'ailleurs, la date choisie, Patrick Roger posait la question ce matin, est assez étonnante. En général, c'est à la rentrée que ça se passe, la présentation des grilles.
C'est une tendance quand même qu'ils ont depuis quelques années. En fait, c'est pour aussi révéler quelques surprises aux journalistes qui étaient présents dans la salle, parce que au début d'année, tout le monde sait et c'est un petit peu de la redite. Ça sert pas à grand chose. Là, il y avait un vrai intérêt. Il y avait des vraies annonces et il fallait noter vite à tel point les annonces s'enchaînaient quoi.
Ah ouais. Ça a été très vite. Alors racontez-nous un petit peu ce qui va changer dans cette grille de France Télévisions.
Par Jean-Luc Lemoyne, là, qu'on a vu dès le hall d'entrée se faire mitrailler par les photographes. En fait, c'était l'ancien chroniqueur vedette
de Cyril Hanouna.
De Cyril Hanouna sur C8, après quelques mois loin des lumières, mais revient en fait sur le devant de la scène le samedi. Il va présenter une émission d'humour le samedi après-midi.
Il est face les écrans
d'humour. Voilà, bon.
Il pique la place. Hein.
Ouais, avec une très bonne interview dans Le Parisien, je vous passe la brosse à relire, ce matin, où Jean-Luc Lemoyne ne se prive pas de tacler Cyril Hanouna en disant si, non, on n'est pas fâché, il m'a félicité.
C'est vrai qu'il le tacle.
Quand on dit il m'a félicité, ça m'a permis de récupérer son numéro de téléphone.
Effectivement, il ne l'avait plus depuis quelques mois, donc il y avait zéro contact depuis quelques mois, c'est comme ça. Ouais. Quand on part de chez Cyril Hanouna, c'est un peu compliqué toujours. Hein.
Voilà. Donc racontez-nous. Alors il va y avoir beaucoup de place laissée à l'écologie.
C'est ça. Avec
sur France Télévisions.
10 défis pour la planète. Ce sera une émission présentée par un duo insolite, Anne-Elisabeth Lemoyne et Nagui. Ça serait au début de l'année. Il y a aussi une recrue qui est Hugo Clément, qui était à Quotidien avant, qui était avant aussi au Journal de France 2. Donc c'est un petit peu aussi un retour sur le service public pour lui, qui ferait une série documentaire autour de l'environnement. Là, il est parti. Et la première, ce sera autour des mers, des océans, où en fait c'est là que tout se joue. Il est parti tourner au Mexique récemment pour.
Alors pourtant, l'écologie, ça fait pas beaucoup d'audience, on l'a vu.
Non, avec puis en plus, c'est la grande spécialité d'Hugo Clément. On sait qu'il est très spécialiste de l'écologie.
Ouais, alors ça dépend. Non, mais il est vegan, il a pas de voiture, il part en vacances sans prendre l'avion. Bon, là, pour ses tournages au Mexique,
Nagui je me suis
la question comme il avait fait s'il était parti en canoë. Ouais.
Et Nagui aussi Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut être en adéquation?
Je n'ai pas vu Nagui, je ne vais pas poser cette question.
Est-ce qu'il était en adéquation? Alors, Rémi avait une question.
Oui, est-ce qu'il y a eu l'occasion de poser des questions? Par exemple, comment il justifie la fin de Thalassa si, effectivement, l'accent est mis sur les grands rendez-vous d'écologie?
Ah bah vous êtes chez Mickaël.
Non, alors je vous dis la vérité, il n'y avait pas de questions-réponses comme ça a pu le faire, comme on a pu le voir dans les précédentes années. Là, c'était vraiment le speech et après quelques questions-réponses avec des journalistes en aparté. Il se trouve que moi j'étais avec Jean-Luc Lemoyne, on a bavardé un petit peu de temps. J'ai vu aussi Nicolas Daniels, qui est le patron des divertissements, qui me parlait du nouveau du préquel,
de Fort Boyard,
qui va arriver assez vite.
Et Sophie Davant, pour qui on s'interrogeait, est-ce qu'elle aurait de nouvelles émissions? Ben oui, on a appris que oui, c'est ça.
C'est ça. Ben elle va avoir un ou deux primes ou plus dans l'année. S'appelle mal-être. Alors moi je l'avais mal interprété, mon courrier quoi.
Ah, d'accord, oui, moi aussi j'ai compris mal-être.
La confidence, donc ils vont peut-être changer de nom après ma remarque, mais ce serait une sorte de star à domicile relooké où un anonyme va écrire une lettre à son idole pour le rencontrer et cette personnalité, son idole, va lui faire
des émissions. Donc Sophie Davant aura d'autres émissions. Léa Salamé voit son magazine Stupéfiant s'arrêter. Peut-être qu'il reviendrait sous forme de prime sur France 5 et ça c'est ce qu'on a appris.
Ça c'est un peu compliqué les discussions. Je pense qu'elles sont pas encore finies parce qu'il y avait une histoire de prime sur France 2, finalement c'était pas possible, donc ça a basculé sur France 5, mais avec un certain nombre de primes ils étaient pas trop d'accord. Donc il y a eu une grosse explication avant la conférence de presse hier matin. Oui parce que c'est un coût et du coup pour Bangoumi
Bangoumi, rappelons que c'est la boîte de production qui produisait Stupéfiant
qui produit
Quotidien sur TF1,
une émission régulière. Et puis ils ont annoncé également l'arrivée d'une vieille émission,
Jeux sans frontières.
Au départ c'était Intervide je vous en avais parlé, qui était prévu, mais comme c'était trop cher ils se sont dit si on faisait financer par des chaînes étrangères, et c'est pour ça que c'est devenu ils ont décidé de refaire Jeux sans frontières. Ouais. Ils n'ont pas annoncé de pays. Il y a l'Italie, je crois, qui a annoncé qu'il participerait à ces Jeux sans frontières.
Ouais, qui a participé à tous les Jeux sans frontières, d'ailleurs, l'Italie. Après, moi, ce que j'avais comme information pour économiser un peu de l'argent, il pourrait tourner en Roumanie. Voilà, ce serait une première. Ce serait un peu étrange.
Oui.
Sans frontières, c'est sans frontières.
Sans frontières, c'est sans frontières.
Pourquoi pas. Après, c'est service public.
Il y a quelque chose qui vous a frappé dans cette présentation hier, sur la forme, sur le fond, ce grand show, ce slogan « Rien ne se fait sans vous ». Hier, j'ai vu quelqu'un qui tweetait, je ne sais pas combien ils ont payé un publicitaire ou un communicant pour trouver ce slogan. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette présentation?
Le show à l'américaine, tout simplement, avec beaucoup d'annonces, pas de temps mort, peut-être un peu plus pour Delphine Ernotte qui, elle, s'est projetée dans l'avenir à plus long terme, pas juste septembre, mais en parlant de de pacte citoyen avec des engagements pour 2022. Donc, ça laisse entrevoir clairement une annonce de candidature à sa succession.
Bah, écoutez, on aura l'occasion. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci Mickaël Zaltobrodan. On peut retrouver votre interview de Jean-Luc Lemoine aujourd'hui dans Le Parisien. Et on se retrouve dans un instant pour parler des femmes les plus influentes de France, femmes d'influence. C'est dans le magazine Forbes. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. Les médias, c'est également la presse. Et on va parler du magazine Forbes avec Dominique Busseau. Bonjour, vous êtes le PDG de Forbes France. Alors Forbes, c'est un magazine qu'on associe au classement des milliardaires, des plus grandes fortunes du monde, en tout cas aux États-Unis. En France, vous êtes arrivé il y a quelques années d'abord sur le web, puis vous avez sorti une version papier. Et aujourd'hui, vous vous intéressez dans le numéro qui paraît aujourd'hui même aux femmes d'influence, sport, business, culture, réseaux sociaux. Qui sont ces personnalités qui génèrent des profits et des ventes records? Alors, c'est un magazine pour les riches, Forbes?
Alors, pas du tout. C'est ce que tout le monde a comme perception. Alors, Forbes n'existe en France que depuis un peu plus de 2 ans.
Ouais.
La version papier était lancée il y a 1 an et demi, sous format trimestriel, book magazine sur l'économie. Et en fait, à la base, Forbes... C'est écrit en 1917, c'est un magazine sur l'entrepreneuriat. Forbes prône la réussite business. C'est les gens qui créent des entreprises, les gens qui créent des emplois. Et certains d'entre eux, ça peut arriver, après de nombreux échecs, gagnent un peu d'argent.
Donc c'est la philosophie de ce journal.
Tout à fait.
Voilà. Et comment il fonctionne en France? Donc quel bilan vous faites au bout de 2 ans?
Eh bien écoutez, au bout de 2 ans, on est assez satisfait. On a un tirage de 100 000 exemplaires au niveau papier. Une partie est diffusée en kiosque et l'autre partie est diffusée de manière qualitative, qualifiée, dans des grands palaces, dans des business conférences, dans les loges de l'aéroport. Et sur le web, on dépasse un peu plus de les 1,5 million de visiteurs uniques. Donc un beau succès.
Quand
et les gens.
Une partie, c'est quoi la partie diffusée en kiosque?
C'est 50-50. 50 000 en kiosque, 50 000
en
visiteurs.
Vous vendez 50 000 exemplaires en kiosque?
Non, c'est la mise en place en kiosque.
Mise en place.
Après, comme vous savez, il y a un pourcentage en fonction des numéros.
Parce qu'en fait, vous n'êtes pas à la CPM, donc j'ai.
Non,
pas trouvé vos chiffres.
C'est l'association des éditeurs de presse magazine.
On est ni à l'OJD, tout à fait. Non. Alors vous savez, en fonction des numéros, on peut vendre 20, 30, 40, 50% des numéros qui sont placés en kiosque. Ça dépend des numéros, de la cover, ce dont on parle dessus.
Alors, dès le départ, vous vous êtes intéressé aux femmes. Déjà eu un numéro, j'ai vu précédemment, sur les femmes. Les femmes entrepreneurs, aujourd'hui, c'est un secteur qui est important.
Alors, en fait, dès le premier numéro, on n'a pas fait un numéro spécialement sur les femmes, mais dès le premier numéro, on a une rubrique qui s'appelle « Femmes at Forbes ». Et on consacre, dans chaque numéro, entre 10, 15, voire 30, 40 pages sur les femmes, les businesswomen. Mmh. Parce qu'on considère qu'elles ne doivent pas être laissées de côté. Comme vous le savez, une loi Copé-Zimmermann qui a été votée il y a quelques années. Mais malheureusement, les choses mettent du temps à se mettre en place. Vous regardez les commerces des grands groupes, on est loin d'être à la parité. On a pu interviewer
c'est
sur
comment
ce numéro.
La parité dans Forbes?
Au niveau quoi?
Au niveau de la rédaction.
Écoutez,
du COMEX,
je pense qu'il y a même plus de femmes au niveau de la rédaction que d'hommes. Donc là, de ce côté-là, ça se passe plutôt
et
pas
le
mal.
COMEX, le comité dirigeant
J'ai 2 associés, c'est 2 femmes. Donc on a 66% de femmes au sein de la direction de Ford. Vous voyez, on essaie de montrer l'exemple. Et comme je le disais, Sophie Bellon, il y a une seule présidente
du CAC 40. Qui est la seule femme.
C'est la seule femme présidente. Vous avez une directrice générale qui est Isabelle Cochère chez Engie. Il y a une seule femme. Donc vous voyez, il y a encore du terrain à faire.
Et Forbes États-Unis, c'est comment?
Au niveau parité?
Oui.
J'aurais pas les détails exacts, donc je pourrais pas vous répondre d'une manière précise.
Ouais. Pourquoi vous l'avez pas mise en une, justement, Madame Bellon, qui est la seule femme du CAC 40? Vous avez privilégié Caroline Receveur, qui est l'une des personnalités françaises, une des success stories du web. Elle est très belle, très jolie. Ça fait plus vente de mettre une... Parce que, non pas que Madame Bellon... Attention, je suis en train de m'enfoncer. Mais Madame Bellon est plus âgée. Donc là, c'est une jolie femme, clairement, que vous avez mis. Donc c'était une question que je me suis posée.
Alors effectivement, on va pas se mentir. Ouais. Je pense que ça va faire un petit peu plus vente. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que aux États-Unis déjà, Forbes avait un peu récidivé, avait fait la même chose. Donc j'ai un petit peu copié sur Concept Forbes, qui avait mis en couverture Kylie Jenner fin d'année dernière. Et comme vous avez vu, ça a été annoncé, c'était la plus jeune milliardaire de tous les temps. Elle était milliardaire à 21 ans, c'est-à-dire 2 ans avant Mark Zuckerberg. Mmh. Ça laisse un peu à réfléchir.
Ce qui est intéressant, ce sont ces nouvelles entrepreneuses, c'est-à-dire toutes celles qui ont réussi en étant influenceuses ou avec des applications. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert des femmes incroyables qui ont eu des réussites à 30 ans absolument phénoménales.
Et c'est surtout des réussites éclairs. Pour revenir sur le cas de Kylie Jenner, elle a lancé un compte Instagram, elle a eu des followers, bon, elle a plus de 135 millions aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'assez lourd et de massif. Et en 2 ans, elle a lancé Kylie Cosmetics. Ouais. Et puis, elle a fait un appel en disant, maintenant, je suis aussi donc sur son site web, je suis aussi présent sur certains magasins. Et en quelques temps, elle a fait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est quand même époustouflant. Mmh. Alors, à une plus petite échelle, et c'est le cas, c'est pour ça que vous posez la question, pourquoi on n'a pas mis Sophie Bellon. On essaie d'être là où on ne nous attend pas forcément. Donc, finalement, ça aurait été plus simple de mettre Sophie Bellon, seule femme
c'était
présidente.
C'était plus attendu.
C'était plus attendu. Donc, je me suis dit, on va mettre l'exemple de Candy Lancer, qui a un parcours qui est inspirant, qui est rafraîchissant. Elle a déjà lancé 2 marques, une marque de thé, et puis elle vient de lancer sa marque de prêt-à-porter.
Elle gagne combien d'argent, Caroline Receveur?
Alors, je n'ai pas les chiffres, parce que ce n'est pas du tout à
l'échelle américaine. Elle a 3 millions de followers.
Elle a 3,2 millions de followers à date. Et c'est finalement, c'est ces femmes qui sont capables de faire quelque chose de leur image, de leur audience, et de savoir ensuite bien le marketer et le monétiser. Et c'est ça qui est important.
Pourquoi ces femmes ont fait la différence? Qu'est-ce qu'elles ont un point commun, toutes ces femmes?
Je pense qu'elles soignent énormément leur image de marque et la manière de se présenter aux médias, la manière d'être prise en photo, la manière de s'exprimer. Et elles sont capables de se concentrer sur certaines choses, sur les détails qui font vraiment la différence.
Ouais. Marie Lopez, que je ne connaissais pas, qui a 24 ans, fondatrice de Leaves and Cloud, qui a 4 600 000 followers.
Oui. Son alias, c'est Enjoy
Phoenix.
C'est
Enjoy Phoenix, alors oui, effectivement.
C'est
un peu plus connu. Mais elle, c'est la première au palmarès.
Palmarès des Françaises.
Après, il y a Nabila, donc c'est plus étonnant, mais en même temps, elle a aussi 3 millions.
Une certaine notoriété, on va dire, qui vient finalement de la télé-réalité. Et en Italie, enfin en Europe, on a une certaine Chiara Ferragni, qui est italienne et qui est la vraie papesse de la mode. Elle est capable d'influencer la mode plus que peut le faire maintenant certains magazines. Mmh. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas.
Comment vous positionnez vos concurrents? C'est qui? C'est Capital? C'est plutôt Vogue? Vous êtes comment?
Alors, sans être... on va dire, je considère que je n'ai pas de concurrent en tant que tel, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais à un niveau assez premium. Et je ne pense pas qu'on ait de concurrent de la sorte. Enfin, Forbes, alors, ça existe depuis, je vous dis, plus de 100 ans aux États-Unis. C'était les premiers à lancer des classements. À la base, le classement des milliardaires et tout type de classement. Quand on lance un classement en France, comme le classement des milliardaires, le dernier en date du mois de mars ou celui de l'année dernière, c'est un classement qui fait référence et on a une dépêche AFP. Il n'y a aucun autre magazine qui, quand il lance un classement, a une dépêche AFP.
Je voulais vous demander, vous avez aussi dans ce numéro 100% féminin, les réseaux féminins d'Emmanuel Macron.
Oui.
Qui sont-ils? Est-ce qu'il est plus influencé par les femmes ou par les hommes?
Alors, il a annoncé quand il était candidat que ça allait être le Girls Power. Et effectivement, ça se... Alors, traduit... pas complètement dans son gouvernement, parce que bouger les lignes, c'est compliqué. Mais au niveau des femmes qui font bouger les lignes, bon, on peut aussi parler, aussi, comme vous savez, de son épouse, Brigitte, qui aussi œuvre beaucoup pour son mari. Mais effectivement, c'est assez féminin, les femmes qui influencent la politique d'Emmanuel Macron.
Alors, ces 40 femmes Forbes, les 40 femmes qui ont... Alors, comment est-ce qu'elles ont été choisies et sélectionnées?
Alors, effectivement, on a plusieurs classements dans ce numéro, dont les 40 femmes Forbes 2019. Ouais. Alors, la rédaction... composée d'une dizaine de personnes, plus bien sûr un certain nombre de contributeurs en plus, a proposé des noms. Et ensuite, j'ai sélectionné un jury, alors qui est composé de différentes personnalités, parmi lesquelles, alors, je voulais un petit clin d'œil, donc j'ai une actrice, mais qui est une bonne femme d'affaires, qui est Frédéric Bell, qui faisait la Minute Blonde sur Canal Plus, que tout le monde connaît. J'ai aussi ensuite Marion D'Ariantor, qui est la présidente d'Edelman Elan. Et j'ai ensuite Marc Simoncini, serial entrepreneur que tout le monde connaît, qui a fait Mythic, Sensi et autres. J'ai Xavier Romaté, qui est l'ancien président du groupe Condé Nast et qui est maintenant président de l'Institut français de la mode. Et pour finir, je sais plus qui j'ai d'autres. Enfin voilà, donc
il y avait ce jury. Et
ce jury a voté pour retenir sur les 150-200 femmes, d'accord, pour en retenir 40, effectivement.
D'accord.
Et il y avait 3 critères. C'était la réussite business, le rayonnement de la France à l'international, ainsi que le côté social qu'elle pouvait apporter.
Et il y a une footballeuse dedans.
Oui.
Vous étiez déjà dans le...
Je pense qu'il y a un peu le timing qui joue
Amandine
avec ça.
Amandine Henry, donc il y a effectivement des médecins, il y a...
Des chercheurs, des politiques, des entrepreneuses.
Une astrophysicienne, il y a Brigitte Macron.
Voilà.
C'est classé par ordre alphabétique. C'est pas un classement.
Non, c'est un palmarès.
C'est un palmarès. Donc voilà.
Vous liez avec ces personnes, c'est ça?
Non, mais bon, on aurait pu mettre par les notes, mais bon, voilà, c'était dire les 40 qui ont retenu la rédaction et le jury de Forbes France, tout
en,
à fait.
En tout cas, ça donne la pêche parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes formidables, il y a des portraits de femmes, effectivement, il y a celui de Madame Bellon, mais il y a d'autres.
Il y a aussi, vous êtes juste sur la page de Sophie Lacoste,
Sophie Lacoste
qui a repris une marque qui était vieillissante, qui s'appelle Fuseau des Alpes. Mmh. Elle a redoré le blason, elle a développé un international d'une manière incroyable. Donc il y a des femmes qui font des choses formidables, il faut le raconter, il faut le dire.
Voilà, c'est Forbes, ce numéro qui paraît aujourd'hui Femme d'influence. Merci d'être venu ce matin pour nous en parler, Dominique Busseau, PDG de Magazine.
Merci Valérie.
Les 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors Valérie, parfois ils sont souvent tout nus, parfois tout bronzés. Ce soir sur France 5, vous savez, Nantes et Moots sont de retour pour une nouvelle saison. Vous savez, nus et culottés.
Ils sont rarement bronzés. Hein.
Oui, ils vont de nouveau repartir de zéro en pleine nature, sans vêtements et sans argent. Alors pour en savoir plus, on a téléphoné un des deux compères à Nantes, ce sont de Nantes Thomasset, et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher ce soir à 21h sur France 5.
Imaginez-vous, vous êtes dans le plus simple appareil et vous avez un rêve. Ça peut être de dormir dans un phare au Danemark ou encore de prendre un bain de minuit en Norvège. Et une fois couvert de vêtements végétaux, votre rêve ne sera possible qu'avec une bonne dose de confiance en la vie et en chacune des personnes rencontrées. Parce que oui, c'est ce que Nuit Culottée rappelle, nous avons tous besoin de partage et ensemble on a de belles folies douces à vivre, même quand on ne se connaît pas. Alors rendez-vous ce soir sur France 5.
Voilà Valérie, bon, ils seront encore tout nus, ils essaieront de trouver chez l'habitant
des habits
et de la nourriture.
Pour se loger. Ce soir, Rémi, qu'est-ce qu'on regarde ?
Grey's Anatomy, Station 19,
c'est un spin-off,
déclinaison de la série Grey's Anatomy. C'est les premiers épisodes ce soir sur TF1. La mort de l'âme, un téléfilm ce soir avec Didier Bourdon sur France 2. Musique en fête sur France 3. Nus et culottés, donc sur France 5. Et Nouvelle Vie, le magazine dont nous avait parlé Ophélie Meunier.
Son deuxième numéro.
Qui aura peut-être un peu plus de chance parce qu'il n'a pas un match de l'équipe de France féminine.
Il y a Japon-Angleterre sur Canal+, et sur TMC. Absolument.
Oui, ça fera quand même un peu moins.
Un petit peu moins.
En tête, pour moi, Grey's Anatomy.
Oui, je pense aussi.
Et puis, devant
France 2. Et la 2.
À noter que La Mort dans l'âme remplace Marjorie, qui a été annulée par France 2. Déprogrammée. Et Marjorie, il y a eu un épisode, ça n'a pas marché. Un deuxième qui n'a pas marché. Et donc, voilà.
Et bah, très bien. La 1, la 2. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.